Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver. Alors, lors de ma première rencontre avec Divergence, Noémie et Bruno m'avaient demandé ce que je pensais de la question démographique. Et comme font tous les grands diplomates dans les grandes réunions internationales pour ne pas engager leur État, eh ben j'avais botté en touche en renvoyant la responsabilité de cette question aux femmes, seules juges de leur corps, de leur avenir. Ben, je persiste et je signe cette position. Mais à la réflexion, il m'apparaît que c'est un peu plus complexe. C'est en tout cas ce que nous enseigne une table ronde sur le sujet qui s'est tenue à l'initiative des JNE, les journalistes pour la nature et l'environnement, à l'Académie du climat à Paris. Pour tenter d'y voir plus clair avec nous aujourd'hui, Michel Sourouille, qui travaille depuis 1974 sur cette question. Bonjour Michel.
Bonjour Dominique.
Alors, vous avez été professeur de sciences économiques et sociales, vous êtes membre de l'association Démographie Responsable, de l'association des journalistes et écrivains pour la nature, dont je viens de parler, acteur du blog Biosphère, où va-t-on ? Alors, cette question de la démographie, je sais que vous l'avez chevillée au corps depuis très longtemps. Depuis 1974, vous allez nous en dire un petit mot, mais vous n'hésitez pas à vous engager sur ce sujet et à vous définir comme malthusien. Alors, c'est un terme sur lequel, bien sûr, on va revenir.
Oui, malthusien, en fait, c'est un mot du dictionnaire de français, donc c'est un mot normalement qui devrait être courant. Et malthusien, finalement, ce n'est pas antinataliste. Antinataliste, c'est opposé finalement à la natalité, c'est quantitatif, alors que malthusien, qui remonte à 1798, les premiers écrits de Malthus, c'était l'idée qu'il fallait que l'augmentation de la population soit en équilibre avec l'augmentation des possibilités alimentaires.
Alors c'est une idée qu'on a retrouvée finalement début des années 70 avec l'histoire du Club de Rome, avec la première conférence de Stockholm, où on a vu apparaître pour la première fois une préoccupation de cet équilibre entre ressources et population.
Voilà, donc en 1972, le rapport au Club de Rome sur les limites de la croissance montrait que si nous continuons sur la lancée avec des exponentielles, croissance très forte de la population, de l'industrialisation, de l'utilisation des ressources naturelles, nous allions au désastre. Donc c'était un élargissement de la conception malthusienne. Ce n'est plus seulement l'expansion humaine par rapport aux ressources agricoles, c'est l'expansion humaine par rapport à l'ensemble des ressources naturelles. Et donc, par rapport à cela, si vous avez l'indicateur empreinte écologique, il nous montre que depuis les années 70, nous avons dépassé les capacités de renouvellement de la planète. À l'heure actuelle, en 2023, nous sommes à peu près à 1,7 planètes à notre disposition. Or, nous n'avons qu'une planète. Nous
Alors,
avons dépassé les limites.
C'est le dépassement de ces limites, tous les ans, on en parle et on s'aperçoit que chaque année, il est un peu plus tôt. Alors, c'est quelque chose qui n'est encore peut-être pas devenu familier à tous les auditeurs ou à tous les citoyens français, mais c'est pourtant quelque chose que maintenant, on suit. Et c'est un peu nouveau.
Voilà, donc il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur ces questions de dépassement. Nous avons dépassé non seulement les possibilités en ressources naturelles, mais nous avons dépassé aussi les limites en ressources hydriques. Nous avons dépassé les ressources par rapport aux terres disponibles. Et même, donc, le plus souvent, on parle du réchauffement climatique. Nous avons finalement détérioré complètement les capacités d'équilibre de la planète par nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que nos gaz à effet de serre, c'est nos automobiles, mais c'est aussi le nombre d'automobilistes qui sont au volant des automobiles. Nous sommes tous responsables par notre démographie.
Alors, selon vous, ce combat, en fait, ce que vous dites que la responsabilité aujourd'hui se mesure, se voit, mais que finalement, peut-être que les gens n'en sont pas tout à fait conscients et que le combat pour ce lien qui existe entre le nombre d'habitants sur Terre et la limite des ressources n'est toujours pas assez traité, n'émerge pas assez dans le débat public. Donc c'est une de vos revendications, pardon.
Oui, j'étais très très étonné le 15 novembre 2022, donc récemment, c'était le passage selon l'ONU, donc passage officiel aux 8 milliards d'habitants. Donc 8 milliards d'habitants, c'est énorme. Hein. Au moment de ma naissance, on était déjà à 2,3 milliards en 1947, donc 1970, 4 milliards, maintenant 8 milliards, ça augmente toujours. Et pourtant, avec ce passage donc aux 8 milliards, dans les médias, aucune inquiétude à avoir. On parlait du vieillissement de la population, mais de l'état de surpopulation, il n'y a pas eu d'écho. C'est vraiment étonnant, tellement étonnant que le programme des Nations Unies pour le développement a dit que parler de surpopulation serait une erreur. Sauf que il n'explique pas pourquoi ce serait une erreur.
Alors, vous restez fondamentalement un de ceux qui essayaient d'expliquer pourquoi, justement, c'est une erreur de ne pas faire le lien entre population et ressources. Mais pour autant, c'est quand même ce problème de la démographie reste un problème excessivement féminin. Donc, quand je dis que je persiste et signe en disant qu'il s'agit d'un problème un peu féministe, que c'est aux femmes de décider si elles veulent un enfant ou pas, est-ce que vous restez d'accord sur ce point ?
Je suis féministe depuis les années 1970. Il n'y a pas de problème. L'égalité de l'homme et de la femme, c'est d'ailleurs reconnu officiellement par tous nos textes en France. Donc il n'y a aucun problème au niveau du féminisme, au niveau de l'égalité. Bon, et maintenant, au niveau de la procréation, bien entendu, ça repose sur la libération de la femme. J'ai été finalement, au moment du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le premier à dire, et même finalement, ça m'est arrivé personnellement d'avoir un avortement. L'IVG en 1975, l'interruption volontaire de grossesse, c'est vraiment un grand pas pour la libération de la femme. Finalement, ce qui compte maintenant, c'est le concept de naissance désirée.
Alors,
et d'ailleurs,
justement,
on voit juste une indication statistique. Si au niveau mondial, il n'y avait que des naissances désirées, finalement, l'augmentation de la population serait pratiquement divisée par deux.
Alors, justement, on va revenir un petit peu sur cette dimension plus intimiste. À la table ronde à laquelle vous participiez, à l'initiative des journalistes pour la nature et l'environnement, Laure Nouella, qui est journaliste aussi, qui a travaillé à Libération, participait avec vous à cette table ronde. Et elle sait ce qu'est l'éco-anxiété, puisqu'en 2012, elle sombre dans une éco-dépression. Et en 2020, elle va tirer de cette expérience de deuil un livre dans lequel elle interroge de nombreuses personnalités écolo, comment rester écolo sans finir dépressif. Et le remède, selon elle, c'est l'action locale, la sobriété. Elle poursuit sa réflexion sur la démographie et voici ce qu'elle en dit.
La question de la démographie est une histoire de loupe. Où est-ce qu'on met la loupe ? Est-ce qu'on met la loupe sur l'Iran en 70 ou est-ce qu'on met la loupe sur le Rwanda aujourd'hui, sur le Nigeria demain, sur la France qui vieillit, sur l'Europe ? Ma problématique sur les jeunes qui ne seraient pas assez nombreux ou sur les vieux qui vont être trop nombreux, j'ai de plus en plus de mal à répondre à la question est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre ? On est nombreux, c'est sûr. La Terre, ce n'est pas comme la table à rallonge de ma grand-mère, elle n'est pas extensible. Et donc, du coup, forcément, il y a un effet de si on veut être plus nombreux, il va falloir réduire notre rapport au monde, donc notre pression, notre présence, notre imaginaire, etc. Mais il n'est pas pour autant question de retourner vivre comme des personnes néolithiques qui n'avaient aucune empreinte les uns sur les autres. Parce que c'est un sujet quand même assez complexe. Il n'est pas si tabou que ça. Je trouve qu'on en parle de plus en plus notamment des années comme 2022, où il y a un passage critique. On passe à 8 milliards, donc là, forcément, tout le monde va en parler. Mais ce n'est pas tant qu'il est tabou, parce qu'on en parle. C'est comment on en parle et pourquoi on en parle et dans quelle dimension on en parle. Effectivement, c'est un sujet qui mérite d'être adressé et qui est à la confluence de choses très intimes, personnelles, intimes. Oui, c'est de l'ordre de la chambre à coucher quand même, cette histoire. Du désir, de la vie. On est tous partisans d'une écologie, donc c'est-à-dire une forme de recherche d'équilibre. Et en tant qu'être humain, on a tous des désirs qui nous dépassent, qui nous dépassent. Voilà. Quelque part, la pulsion de vie, c'est un rapport à l'écologie très vrai. Et puis en même temps, bah, quelle pulsion de vie serait autorisée ailleurs ou pas ? Les nouvelles générations, je les situe entre 16 et 30 ans, on va dire. Pourquoi faire un enfant ? Pourquoi se perpétuer, transmettre nos gènes, etc., pour perpétuer ce modèle croissantiste, coloniser l'imaginaire, destructeur, voilà. Je trouve ça sain que la question se pose. Maintenant, est-ce qu'à partir de là, on définit un rapport au monde ? Non. Moi, je suis très mal à l'aise, je n'ai pas fait d'enfant parce que ça ne se présentait pas, parce que j'en avais pas envie, parce que surtout je n'ai pas envie personnellement d'endosser avec l'enfant vient l'amour inconditionnel, avec l'enfant vient la responsabilité inconditionnelle. Pour moi, avec l'enfant venait cette espèce de culpabilité inconditionnelle et de devoir gérer un individu, une individu qui monte au monde dans un siècle qui va, d'après moi, pas bien se passer. En tant que collapsologue, si vous voulez vraiment qu'on mette des étiquettes sur les trucs, je pense pas que ça va bien se passer dans le siècle qui arrive. D'ailleurs, dans les deux dernières années, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que nos certitudes dévissent à une vitesse folle et que donc dans cet incertain-là, on peut choisir de ne pas se reproduire, ouais. De ne pas transmettre la vie. Et puis, à contrario, on peut décider, parce que tout dévisse, parce que tout est incertain, de donner la vie et de rester un truc très simple qui est être amoureux et de transmettre la vie. Mais là, vous vous rendez bien compte que je ne réponds pas sur les questions systémiques de la place de l'homme sur Terre et du fait de se reproduire. Enfin, c'est quelque chose de l'ordre de l'intime et de l'époque. Il y a 10 ans, personne n'en parlait. En tout cas, chez les jeunes, on n'en parlait pas. En 2009, on monte la fête des non-parents avec des copains belges, parce qu'il fallait être assez fou, donc assez belge, pour oser un truc pareil. La fête des non-parents, on avait droit à une capote d'or, une capote d'argent, une capote de bronze. Et on partait comme ça avec notre petit truc. Moi, j'ai une capote d'or, j'ai une capote de bronze, j'ai une capote d'argent. Il y avait Corinne Meyer qui avait écrit « No Kid » à l'époque. Et il y avait ses deux enfants ados dans la salle. Il faut que vous sachiez, tout ça vient de loin quand même, ce truc de cette discussion. Et on avait déjà des discussions sur les bilans carbone des nouveau-nés, ou alors est-ce que c'est vachement bien sur l'île de Tikopia, Pacifique Sud, où leur population est stable depuis à peu près 2000 ans, tout simplement parce que ben, les vieux partaient mourir en pirogue au large, et on n'avait pas le droit de faire d'enfants dès lors qu'on n'était pas marié, et donc pas premier de cordée dans une lignée familiale. Il y en a des histoires autour de ça, mais ça ne répond pas à la question de est-ce qu'on est trop nombreux, et de toute façon, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que tout le monde fait ce qu'il veut, avec ce qu'il peut, et là où il est.
Alors Michel, vous venez d'entendre Laure Nouala, que pensez-vous de cette position ? En fait, elle nous répond d'une manière extrêmement intime. Nous en sommes revenus à notre question de départ. Peut-il y avoir une position collective sur le sujet de la démographie ? Quand la question émerge dans le débat public, c'est toujours sous forme de décision d'État, incitative, contraignante. C'est la toute-puissance étatique face à l'autonomie individuelle. En France, on compte sur les allocations familiales. En Chine, c'est la menace pour instaurer la politique de l'enfant unique. Dans les pays autoritaires, c'est l'interdiction de l'avortement. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une position collective, Michel ?
Oui, ce que dit Laure est extrêmement intéressant dans la mesure où elle montre que c'est très, très compliqué finalement, il y a une contradiction entre les choix personnels, intimes, d'une part, et puis l'intérêt collectif et l'état de la planète. Voilà, c'est très, très, très compliqué. Mais ce qu'il faut d'abord considérer, c'est qu'on ne choisit pas de naître. C'est les parents qui prennent la responsabilité de mettre au monde. Et donc, ça devrait dire à tous les parents, attention, attention, une responsabilité de cet ordre, c'est très, très important. On ne fait pas un enfant pour soi. On fait un enfant pour son propre dépassement. Et mettre un enfant au monde dans une planète détériorée, extrêmement détériorée, c'est vraiment pas un cadeau. Donc là, ici, que ce soit finalement le gouvernement ou l'éducation nationale, on devrait montrer aux gens que ce savoir faire ou ne pas faire un enfant, c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle, mais finalement avec la pensée que le bien commun, l'état de la planète est derrière. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Bon, maintenant, que faire par rapport à cet état de surpopulation? Vous me parlez de finalement de pays autoritaires, etc. Je voudrais juste faire remarquer que jusqu'à présent, en particulier en France jusqu'en 1975, il y avait une interdiction de l'avortement. La contraception n'est revenue que dans les années 1976. Il y a eu deux personnes qui ont été condamnées à mort et exécutées en France pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'elles avaient aidé à des avortements. On voit bien que notre société est très, très nataliste. Et dans cette société nataliste, il est extrêmement difficile de faire passer le message malthusien.
Alors pourquoi sommes-nous, vous venez de dire, nous sommes dans une société nataliste? Quels sont, à votre avis, les ressorts, justement, de cette société nataliste qui n'arrive pas à voir que les ressources sont finies?
Oui, donc en fait, on continue sur des habitudes culturelles. Finalement, il y a une phrase qui revient historiquement, « Il n'y a de richesse ni de force que d'hommes ». Finalement, c'était l'idée que le quantitatif l'emportait. Or, nous sommes une société où ce n'est pas finalement le nombre de soldats qui fait la force des armées, c'est aussi l'appareillage, les techniques utilisées, ainsi de suite. Nous devons donc changer d'imaginaire et se dire que finalement, ce qui compte, c'est la capacité des hommes à dépasser les contraintes. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, dans une société qui est déjà surpeuplée, nous sommes submergés par les problèmes et les individus ont extrêmement de mal finalement à essayer de voir ce qui serait bien pour l'individu et pour la planète.
Alors vous avez réfléchi à cette question et puisque vous êtes aperçu et vous faites partie de ceux qui pensaient que justement l'écologie se pense d'une manière transversale, c'est-à-dire qu'on y intéresse, on s'intéresse finalement, quand on fait de l'écologie, aussi bien à la philosophie qu'à la sociologie, qu'à la religion, etc. Donc, vous avez quand même travaillé un peu en prospective sur ces sujets. Comment voyez-vous un peu les choses?
Alors, par rapport à cela, j'appartiens aussi à l'association Démographie Responsable et nous sommes très, très inquiets du fait de notre nombre qui enlève toute possibilité aux autres espèces de perdurer et de vivre. Nous bétonnons énormément. Nous perdions à une époque un département par année, chaque année, par rapport à l'artificialisation des sols. Et bien entendu, toutes les autres espèces, les espèces sauvages, disparaissent. Il y a une extinction de la biodiversité. La démographie n'est pas seulement liée à des affaires humaines, la consommation, la production, le bien-être, le niveau de vie. C'est aussi lié aux nos relations à toutes les autres espèces.
Ben, c'est lié aussi à notre vieillissement. Et donc, c'est un sujet qu'on aborde rarement quand on parle du vieillissement. Par exemple, en ce moment, la France entière est mobilisée sur les problèmes de retraite et on entend rarement parler on commence, ça y est. Maintenant, au bout d'une semaine, 15 jours, on commence un peu à entendre parler de l'âge, du vieillissement de la population et on commence un peu à penser non plus à l'âge de la retraite, mais à le mettre en prospective avec quelle sera la France de 2030, de 2050.
Alors, le vieillissement de la population est un, occulte l'idée de la surpopulation. On dit, pour payer les retraites des retraités futurs, il faut faire plus de jeunes maintenant. Par rapport à ça, c'est une situation nataliste. Nous disons que, en fait, il s'agit d'une pyramide de Ponzi démographique. Une pyramide de Ponzi, on emprunte au moment même pour finalement accroître les choses et puis ça s'effondre. En fait, on va faire beaucoup d'enfants pour payer les retraites des vieux, mais comme on aura fait beaucoup d'enfants, il y aura encore plus de retraités dans l'avenir et finalement ça s'effondre. Bon, en fait, c'est pas un problème démographique, c'est un problème de savoir est-ce que les cotisations sociales vont être plus élevées, moins élevées, à partir de quel âge nous allons partir à la retraite. Donc le vieillissement, à l'heure actuelle en France, il est discuté, il y a beaucoup de pistes ouvertes, mais ce n'est certainement pas en augmentant le nombre des enfants que nous pourrons payer des retraites dans l'avenir.
Alors vous allez même plus loin. Enfin, j'ai lu dans Cairn Info un de vos textes et j'ai vu que finalement vous finissiez sur une position qui était très éthique, puisque en fait vous pensez que c'est les valeurs que nous possédons qui dicteront nos choix. Et que finalement, on a en face de nous deux possibilités. On a des hommes qui ont une face sombre et qui continueront à fonctionner sur le profit, sur l'usage de la planète, jusqu'à temps qu'elle n'en puisse plus. Et puis, peut-être une intelligence collective des situations qui apparaîtrait. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces deux de position et de cet espoir que vous avez?
Je suis éducateur dans l'âme, j'étais professeur, j'ai fait beaucoup d'éducation dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'éducation au jeu d'échecs. Et je pense que l'éducation est centrale. Le problème, c'est que cette éducation, à l'heure actuelle, est étouffée complètement par les réseaux sociaux. C'est à l'heure actuelle la génération des écrans. Les jeunes n'écoutent plus les adultes, ils sont sur leur écran, TikTok, etc. Donc nous avons un problème d'intelligence collective, c'est certain. Mais ce n'est pas parce que c'est très très difficile à faire passer les messages de raisonnement, de rationalité, de démographie responsable, ce n'est pas parce que c'est très difficile qu'il ne faut pas le faire. Je ne suis pas désespéré, mais très très inquiet quand même, parce que je ne pense pas que notre système éducatif, nos modes de gouvernement et les médias ne font pas le bon travail pour éveiller l'intelligence collective.
Bien, merci Michel pour cette conclusion. Donc, de toute façon, je crois qu'effectivement, nous reviendrons au cours de cette émission sur les problèmes d'éducation, parce qu'on est à un basculement aujourd'hui et il est clair qu'il faudra peut-être aussi se préoccuper de cette question. Je rappelle les livres que vous avez écrits et les dernières grandes études sur le sujet que vous avez mené. Donc, arrêtons de faire des gosses, ou comment la surpopulation nous mène à notre perte. C'est un de vos livres. Un mot.
Oui, le dernier, c'est Alerte surpopulation, le combat de démographie responsable. Il est sorti en octobre dernier, donc c'est le dernier livre.
Et vous avez écrit également Moins nombreux, plus heureux, urgence écologique de repenser la démographie aux éditions du Sandataire.
Ça, c'est un livre collectif en 2014 et avec beaucoup d'auteurs, dont Yves Cochet et Pablo Servigne, par exemple, qui est devenu célèbre avec son mot sur l'effondrement.
Donc, les cosmétologues. D'accord, la cosmétologie. Et puis, bien sûr, vous avez votre blog Biosphère, où va-t-on, où on peut suivre votre réflexion.
Voilà, tous les jours, j'écris un article.
Bon, et bien sûr d'autres essais aussi sur la politique, sur l'écologie. Donc, Maintenant, je souhaite à tout le monde de pouvoir vous suivre. Je sais que le Parti Vert vous relaie relativement, mais il ne faut pas que l'écologie reste réservée. Donc, espérons que d'autres vous découvriront. Donc, Michel, eh bien, au revoir et merci d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous, Dominique.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.